voix nue. Toute cette semaine, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant. Ce soir, aux Marches du Palais.
Vitalité, vaillance, enthousiasme, humour, intensité, mais aussi, sur l'autre plateau de la balance, le goût du secret, un côté farouche, un soupçon de sauvagerie et par-dessus tout, quelque chose de vibrant. Il ne s'agit pas, Fanny Ardant, de la recette d'un élixir d'amour, non, mais du portrait qu'a fait de vous en 1981 un homme amoureux, François Truffaut, dans un texte intitulé « Introducing Fanny Ardant ». Vous êtes née à Saumur, la comédie française des chevaux, selon Paul Morand, puis avez grandi à Monaco où, à partir des années 60, votre père, le colonel de cavalerie Jean Ardant, devient l'un des conseillers de la garde personnelle du prince Rainier. Une éducation dans la pure tradition aristocratique, à la Don Quichotte, direz-vous. Des leçons de ce père, militaire et pourtant antimilitariste, qui s'était d'abord engagé pour l'amour des chevaux, vous retiendrez entre autres celle-ci, aux allures de parabole. Il faut laisser le cheval libre, tout en le contrôlant au plus près. Ne jamais contraindre l'animal, libre, toujours libre. Votre sésame pour la liberté, il vous faudra pourtant le gagner en passant les épreuves d'un parcours plus ou moins initiatique, qui vous mènera de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence aux affaires étrangères à Londres, avant que votre désir d'être actrice ne vous ravisse définitivement à la carrière diplomatique. Jouer. Jouer enfin, d'abord au théâtre, puis plus tard au cinéma. Faire vôtre les mots des autres, pourvu qu'ils vous consument, surtout s'ils vous dévorent. Ces mots qu'à travers les livres, depuis l'enfance, depuis toujours, vous dévorez. Ceux de la romancière britannique Jean Rhys, par exemple, dont je sais que vous aimez particulièrement le style, la musica. Alors pour finir Morando, Fanny Ardant, je vous imagine volontiers ouvrir le recueil de ses mémoires comme on ouvre une porte dérobée. Et là, souriante et désinvolte, de votre voix sans rivale, laissée échapper. Assise dans mon fauteuil, je fume cigarette sur cigarette, sans hâte. J'ai mon temps, tout mon temps, car je sais enfin ce que je veux. Je veux le néant. Bonsoir, Fanny Ardant.
Bonsoir.
Et merci de nous faire entrer chez vous toute cette semaine. Apparemment, cette leçon de vie de votre père que j'évoquais à l'instant, concernant l'animal qu'il faut laisser libre quoi qu'il arrive, vous a profondément marqué. J'ai lu quelque part que vous n'attachiez jamais vos chiens, quitte à prendre le risque de les perdre ou de vous les faire voler, ce qui est arrivé, je crois.
C'est vrai.
C'est vrai.
Je pensais que, justement, si on prend la métaphore de la laisse, ce n'est que par amour qu'on suit les choses. Ce n'est que par conviction qu'on rentre dans certains ordres. J'ai eu toujours du mal avec l'autorité, mais curieusement, pas avec l'autorité bienveillante. Je pense que si on doit reparler de mon père, il avait une forme d'autorité, mais qui s'adressait toujours à l'intelligence. Et donc je ne veux pas être comme les chiens à qui on dit « Ok, aboie, souris, mange ta pomme ». Non.
Dans le livre que Pascal Ouvrier vous a consacré, vous dites de votre père qu'il était un gentilhomme des Lumières. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Un peu comme on aurait dit avant, un humaniste. Quelqu'un qui avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, beaucoup pris de risques. Jamais donneur de leçons, indépendant d'esprit. Assoiffé de pouvoir ni d'argent. C'est pour ça quand je disais Don Quichotte, avec une vraie pureté. Souvent on m'a dit « Ah, être élevé par un militaire ». Mais peut-être c'est de là que j'ai pris qu'il ne fallait jamais être identifié à sa caste. Qu'on pouvait avoir un métier, parce qu'on l'aimait par-dessus tout, mais qu'on n'était pas obligé d'être représentant de ce métier.
Je le disais tout à l'heure, il était colonel, officier de cavalerie. Et je crois que déjà au début des années 40, sous Louis II de Monaco, il avait été le précepteur du futur prince Rainier III. C'est bien ça. Et j'ai envie de m'arrêter un peu sur cette période particulièrement trouble, ce début des années 40, parce qu'il me semble que ce contexte de la Seconde Guerre dit des choses sur la personnalité de votre père. Je rappelle que Louis II avait demandé assistance au régime de Vichy, et on qualifiera même plus tard d'étrange neutralité son attitude vis-à-vis du Troisième Reich. Comment votre père esprit libre, vous le disiez, plutôt frondeur. A-t-il réagi à ce moment-là?
Bon, là, je n'étais pas là et je n'ai pas beaucoup parlé de cette période, mais je pense que quand le prince Louis a vu que son petit-fils, le prince régné, qui était encore que régné, commençait à filer un mauvais coton avec les voyous de Nice, il a eu envie, et il avait une profonde admiration pour l'armée française. L'armée française est démobilisée. Il a dit, trouvez-moi un jeune homme, libre, pas marié. Et donc ils ont dû faire une sorte de panorama des jeunes officiers, libres, célibataires. Et le choix, comme la loterie, est tombé sur mon père.
Oui, mais il y a quelque chose qui me paraît important. Peut-être s'est-il trompé, mais Pascal Louvrier dit qu'en 1942, votre père claque la porte du palais de Monaco. Et c'est alors qu'il se retrouve à Saumur où vous êtes née, Fanny Ardant. Il n'a pas supporté apparemment ces intrigues politiques.
Sûrement, mais en plus, quand il a su que commençait l'organisation d'un débarquement à Alger, il s'est dit, il faut que j'y aille. Mais entre-temps, c'est pour ça que la vie est toujours, c'est pas noir et blanc. Entre-temps, le prince était tombé amoureux de mon père. Il adorait mon père, parce que c'était un jeune homme. Il devait avoir à peine 30 ans. Le prince en avait, mettons, 18. Il l'a forcé à faire ses études à Tarbes. Il l'a forcé à jouer au théâtre. Donc, et puis tout d'un coup, il a dit, je m'en vais. Mais il laissait derrière lui un jeune homme. Comme, il avait été une sorte de mentor. Et après, il est parti à Alger. Il a préparé le débarquement de Provence.
Quand vous dites le prince, il s'agit du prince régné, cette fois-ci.
Oui, parce que moi, je n'ai jamais connu le prince.
Mais lui avait eu un positionnement tout à fait différent de celui de son grand-père.
Bien sûr.
Lui a rejoint l'armée française avec laquelle il a participé au débarquement des Alliés, enfin, la libération de l'Alsace.
C'est pour ça que vous avez eu raison, dès le départ, de dire des périodes confuses.
Oui.
Que maintenant, bien assis dans un fauteuil, on montre du doigt les méchants et les gentils, mais c'est beaucoup plus gris. La frange entre... Mais je pense que mon père, en tant que militaire, a obéi. Il est parti là-bas. Il a créé ce lien avec ce jeune homme. Un lien très, comme ça, fort d'un homme un peu plus... Et puis après, il s'est dit non, non. Ça, je ne sais pas, mais il a dû entendre des bruits de couloir. Il a su, il a dit non. Mon devoir, c'est d'aller rejoindre ce qui est en train de se préparer à Alger.
En tout cas, si je rentre un peu dans les détails de cette période miroir, c'est que j'ai l'impression que le refus de toute forme de compromission est une chose qui fait partie de la personnalité de votre père et une chose qui vous a profondément marqué. C'est le sentiment que j'ai.
Oui, parce qu'en plus de ça, après avoir grandi à Monaco, vous savez, dès qu'il y a une cour, même sans avoir une cour, vous voyez bien le président de la République avec tous les gens courtisans. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a la courtisanerie. Et moi, ce que j'aimais, jeune fille, même enfant, c'est de voir que mon père était arrivé pauvre comme un Job en arrivant à Monaco et qu'il est parti pauvre comme Job, qu'il ne s'était jamais laissé corrompre, qu'il n'avait jamais perdu sa dignité, qu'il n'était jamais donneur de leçons, mais qu'il avait une ironie, quelque chose qui, vous voyez, qui glissait. Et Dieu sait que les enfants sont attentifs. Moi, très jeune, j'avais lu trop, donc j'étais toujours du côté de celui qui dit non. Mais lui, toujours, il me disait toujours, t'es pas sur terre pour donner des leçons. Et ça aussi, ça me frappait. Et puis, il aimait beaucoup Louise de Villemorin. Et il me disait toujours que Louise de Villemorin disait aux femmes, « Sois douce. » Je me souviens dire quoi. Longtemps après, je comprenais que la douceur, il y avait quelque chose de, pour revenir, humaniste. Dans la douceur, vous aviez la tolérance. Regarder l'autre et puis dire, « Non, pas ça. » Mais l'écouter.
Où vos parents se sont-ils rencontrés, Fanny Ardant?
À Alger. Mon père était spahi à Alger. Je me rappelle que ma mère, quand il venait faire la cour à ma mère, il y avait un couvre-feu, et il sortait avec, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'uniforme des spahis, mais c'est blanc avec des capes, comme ça, c'est comme dans les opérettes.
Et que faisait votre mère à Alger?
Alors ma mère avait suivi ses parents, mais elle a grandi à Alger, elle a fait ses études à Alger, et elle a fait son droit. Et elle est devenue avocate. Et quand le général Leyer était à Alger, il a réquisitionné toutes les filles d'Alger qui avaient un certain niveau d'études. Et donc elle a fait partie des femmes qui tapaient les machines, enfin qui avaient accès au dossier. Et ce qui devait arriver arriva. Ma mère rencontra le capitaine Ardant. Et ce fut un coup de foudre.
Est-ce que vous ressemblez physiquement à votre mère?
Non, parce que maman, elle était petite, blonde, rose, bleue, alors que mon père était maigrichon, il avait les yeux noirs, presque kaki. Non, je suis beaucoup plus du côté des Ardennes.
Vous parlez parfois très durement de votre physique, du moins du physique de votre adolescence. Vous dites un grand cheval noir, maigre et poilu, qu'on invitait à danser par pitié. C'est plutôt féroce, non?
Oui, c'est plutôt vrai.
C'est plutôt vrai?
Oui. Parce que dès que j'étais assise et qu'un pauvre garçon venait m'inviter à danser, puis que je me développais, je devenais grande. Et lui disait, oh, quelle barbe. Donc, c'est parce que j'étais beaucoup plus grande que lui. Et puis après, je ne savais pas quoi dire. Je trouve qu'on ne sait pas quoi dire quand on danse. Vous allez me dire qu'on peut danser sans parler. Mais je pensais toujours qu'il m'avait invité par pitié, donc je vais comme mon ticket d'entrée, quoi. Et je ne parlais pas, ou finalement je finissais par dire quelque chose qui était offensant. Donc toujours les balles se sont mal terminées pour moi.
Vous ne vous trouviez pas belle?
Ingrate. Et je pensais toujours que je m'en sortais justement en parlant. La conversation me semblait quelque chose de très jeune, tu vois, la conversation m'intéressait. Même si ça finissait par des insultes. Mais et justement, quand on disait « Oh, mais moi, je parle pas, mais je n'en pense pas moins », eh bien, je disais « Je te donne 10 ans avant que tu ne penses plus du tout. » Parce que c'est pour moi le verbe, le fait que tu écoutes l'autre et que tu... La dialectique, ça m'a toujours passionnée. Même devant des adversaires qui ne sont pas d'accord avec vous, comment rapidement, dans l'écoute, trouver la faille, trouver l'argument.
Étiez-vous plutôt une enfant, une adolescente solitaire,
très
isolée sur ce rocher?
Oui, je n'avais pas... Je sais qu'on s'est toujours moqué de moi. Parce que je disais, mes seuls amis sont les livres. Bon, toujours, moi j'aime bien les exagérations. Mais, en fait, oui. Je crois que c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à lire. D'abord la bibliothèque de mon père, et puis après, quand j'étais chez mes grands-parents, la bibliothèque de mon grand-père. Donc j'ai lu dans le désordre. J'ai lu des choses où je ne comprenais pas tout ce qui se passait.
Mais c'est une chose qui vous vient de vos parents. Il me semble vous avoir entendu dire qu'ils vous offraient, vous me direz si c'est vrai, chaque année à Noël, un livre et un opéra.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu didactique pour une petite fille? Vous auriez peut-être préféré une poupée ou un train électrique?
Alors, je ne sais pas, peut-être que le livre, l'opéra est quand même un objet, mettons, un sac. C'est peut-être arrivé que quand j'avais 13-14 ans. Avant, je ne me souviens pas. Mais un opéra, si, parce que je les ai tous encore, mais en vinyle.
Et qu'est-ce que vous lisiez, adolescente? Je crois que quelqu'un frappe à la porte.
Ben, on lui dira d'attendre.
Je pense que c'est quelqu'un qui s'est échappé parce que j'entends la voiture de police.
Alors on va lui dire de rentrer.
Bien sûr. Mais on le laisse frapper encore un peu.
Un petit peu,
il faut
oui.
qu'il purge sa peine.
Non, c'est peut-être un pivert qui s'est égaré.
Ah, un pivert, vous croyez?
Ouais. Je lisais n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main. Donc j'ai lu sûrement des choses... C'est un peu comme la musique ou comme le cinéma. Je pense qu'il faut tout lire, tout voir, tout... Et puis après, on fait des choix. Mais mon goût était très éclectique. Je crois que j'ai lu trop jeune, même Stendhal et Dostoïevski, mais ce n'est que plus tard qu'en les relisant, j'étais fulgurée parce que je comprenais tout d'un coup.
Dans le premier film que vous avez réalisé, Cendre et sang, sorti en 2009, une petite fille lit l'idiot de Dostoïevski avant de s'endormir. Est-ce une réminiscence de votre propre enfance?
Ma certo, oui. Je me souviens, j'étais chez mes grands-parents, qui avaient une maison au milieu des bois, et j'avais lu l'idiot. Et il n'y avait pas l'électricité, parce que c'était au milieu des bois, donc on avait des lampes à pétrole. Et je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, tu vas te crever les yeux à lire dans le noir, comme ça. Et que j'avais lu l'idiot, vous savez, comme on boit un verre d'eau sans s'arrêter, mais que ça m'avait fulguré. Et qu'après, quand je disais à quelqu'un, t'as pas lu l'idiot? Et qu'on me disait non. Et ça me semblait être le manque le plus extrême de la vie de ne pas avoir lu l'idiot.
Qu'est-ce qui vous plaisait tellement dans ce roman? Je me demandais, vous qui êtes une grande amoureuse des Atrides aussi, de la mythologie grecque, ne serait-ce pas le thème du double? Parce que la paire Mishkine-Rogojine dans l'idiot, on peut se demander quand même si ce n'est pas les deux faces de la même personne, l'ombre et la lumière, le mystère de l'homme.
Moi, je crois que j'avais été complètement assommé par le personnage du prince Michkin, celui qui s'avance, qu'on peut couvrir de ridicule.
Humble de cœur.
Oui, d'opprobre, qui ne se formalise pas, qui ne se met pas en colère, qui a toujours la main tendue. Je pensais que c'était comme une nouvelle figure christique de celui qui arrive dans la société, qui ne rentre pas dans le, tu vois, l'avidité, le pouvoir, l'orgueil, l'argent. Alors bien sûr, parce que Rogojine aussi me plaisait, parce qu'il sentait le souffre, mais qu'il y avait cet accord entre eux sur le crucifix, tout ça, il y avait quelque chose très très... Oui, je pense qu'une des figures les plus fortes de la littérature, c'est Michkin. Et souvent quand on me disait, mais à qui vous voudriez ressembler ? Je disais toujours Michkin, parce que ça me semblait être le but d'une vie.
Et c'est un homme doux, Michkin.
Très doux et très... qui n'est pas conscient de ce qu'il fait bouger dans la vie. Ouais. Qui n'a pas avec lui le pouvoir ni politique, ni coercitif, mais qui est quelque chose de... Oui, la bonté.
La manière dont vous parlez de Michkin m'évoque la manière dont vous parliez tout à l'heure de votre père.
Oui, peut-être.
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la douceur et de l'ordre de l'intégrité aussi, peut-être ?
Oui. Oui, parce que du sourire bon, de la main tendue.
Alors est-il vrai, Fanny Ardant, ou est-ce un mythe, que vous lisiez la Chartreuse de Parme durant la messe en faisant croire que vous aviez la Bible entre les mains ?
Oui, parce que je le lisais justement dans un La Pléiade de mon père.
Alors...
Et vous savez, c'est le papier biblique, là. Donc vous pouvez donner le change. Au lieu d'avoir votre missel, vous lisez la Chartreuse de Parme. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Comme quoi, les choses qui vous frappent, enfant, vous frappent toujours plus tard.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez une adolescente solitaire sur ce rocher à Monaco. Mais avec votre père, apparemment, vous faites beaucoup de choses. Vous apprenez notamment à monter à cheval en Amazone et à laisser le cheval libre, on l'aura compris. Mais vous le suivez aussi parfois dans ses missions à l'étranger, la Suède, l'Espagne, l'Angleterre. À quoi ressemblait cette vie, Fanny Ardant ? Elle semble avoir un côté particulièrement romanesque.
Oui, assez romanesque. La Suède, c'était parce que mon père avait été... Là, c'était avant Monaco, parce qu'il avait été attaché militaire à Stockholm. À mon avis, c'était un espion, c'était en plein guerre froide. Donc la Suède, vous voyez, quand vous pensez au rideau de fer. Après, je pense qu'on suit, enfant, je crois que j'ai adoré ma famille. Donc, où qu'ils aillent, j'aurais été. Et après, je suis justement partie de ma famille, parce que je me dis, prends garde à la douceur des choses. Souvent, on fait plus les choses quand on est... quand on refuse, alors que là, mon danger à moi, c'était je serais volontiers restée vieille fille à manger du chocolat et aller tous les dimanches à l'opéra. J'étais bien.
Je me posais la question, l'éducation que vous avez reçue, vous étiez en train d'évoquer cet aspect, avait aussi quand même quelque chose d'un peu strict. Je pense à ce pensionnat, ce couvent de religieuses par lequel est passée aussi la princesse Caroline de Monaco. Est-ce que vous aviez, Fanny Ardant, je peux vous imaginer... avoir la tentation de transgresser ce cadre?
Ben oui, c'est un plaisir absolu de pouvoir transgresser. Si tout est permis, ben tout se vaut. Tandis que là, des autorités fortes, des codes très à ne pas franchir, ah ben voilà, je crois que c'est là où j'ai appris à mentir. C'est là où j'ai appris à faire les coups en douce. Parce que c'est comme le devoir d'un prisonnier de s'échapper. Ben, le devoir d'un pensionnaire, c'est de se rebeller.
Mais une actrice n'est-elle pas finalement un mensonge qui dit la vérité ou une vérité qui dirait toujours des mensonges ?
Un beau combat, oui. Je pense qu'un acteur, c'est quelqu'un qui s'avance masqué et qui est faux. Et que curieusement, c'est aux autres à définir la vérité.
Je ne sais plus qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup. Il y a dans le mensonge... une innocence qui est un signe de bonne foi. C'est joli, non ?
Ah, très. Moi, je pense que le mensonge aussi est une forme, souvent je l'ai dit. Bon, par définition, il faut mentir à la police. Il ne faut jamais dire la vérité quand on est acculé. Mais que souvent, le mensonge peut être une forme de courtoisie.
Georges Bernanos disait que l'esprit d'enfance et l'esprit de jeunesse, c'est d'abord la capacité de l'âme à s'indigner et à espérer. Quel dialogue continuez-vous d'entretenir entre votre enfance et vous, Fanny Ardant?
Ben, je pense que de la même façon que j'aime traiter les enfants comme des adultes et les adultes comme des enfants, je pense que de garder une sorte d'idée que la vie est un jeu, qu'il y a des règles, qu'il y a des codes, mais que dans ce jeu, tout est grave. Et donc, en effet, vous disiez, l'indignation, même si j'ai vécu assez pour savoir que l'indignation ne résolvait pas les problèmes, mais que c'était un état très important de garder toujours. Sinon, si vous n'avez pas d'indignation, vous devenez très vite indifférente.
Toujours à propos de Bernanos, je suis tombée en préparant cette émission sur un texte de Jean-Baptiste Fichet qui m'a tellement plu. Je ne connais pas ce monsieur qui a un blog, je crois. J'ai envie de vous le lire, il est très court. Bernanos rêvait d'esprit d'enfance, esprit tout évangélique, lequel est un désir de ne pas oublier celui que l'on fut en notre plus jeune âge, attendre de toutes ses forces vers une sensibilité, vers une vision de nouveau vierge de toute tâche, exempte non pas certes d'erreurs, mais de mensonges, de calculs, de lâcheté, une vision candide, parfois naïve, mais de cette naïveté qui fait précisément la force des saints, parce qu'elle désarme le diable, si sûr de pouvoir toujours prendre appui sur quelques compromissions intérieures, et si désarmé lorsqu'il n'en trouve trace.
Ben, on revient à Mishkine.
Tout à fait.
Et que Rogojine, lui, c'est le diable, ou toute cette partie des compromis. C'est vrai. C'est pas Bernanos, c'est votre ami.
Ce n'est pas un ami, c'est un auteur, Jean-Baptiste Fichet, que oui. Je ne connais pas, mais qui me donne envie de mieux connaître ses écrits,
très
en
juste.
Tout cas.
Et en effet, c'est très difficile de revenir à l'innocence. Je pense que l'innocence, une fois qu'elle est brisée, elle est brisée. Mais que ce qui reste quand même, c'est l'expectative, l'espoir. Vous pouvez ne plus être innocent, mais avoir gardé de cette tâche de l'innocence l'attente. Je pense que l'attente, ça fait partie d'une sorte d'espoir, de quelque chose va arriver, quelque chose va changer, quelque chose sera différent, quelque chose va se purifier. Moi, je pense que si la vie doit être vaine, elle n'est que dans ce côté, vous savez, des tireurs d'arc qui gardent en vue la cible. Tu vois? Que ce soit comme une tension. Si ce n'était que ça, la vie. Même si on dit, mais c'est dérisoire. Et puis quoi, on aura fait tout ça pour vieillir, pour mourir, peut-être. Mais ce qui était intéressant, c'est d'être tendu, attendre.
Votre père est mort avant d'avoir pu vous découvrir sur un écran de cinéma, Fanny Ardant. Et vos deux parents sont morts, jeunes, vous dites, fauchés en plein vol. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé leur dire, leur montrer, leur témoigner que vous n'avez pas pu faire, pas eu le temps de faire?
Curieusement, je n'ai jamais eu une assez haute idée de moi pour pouvoir leur dire... Je crois que j'étais fière de rien. Mais par contre, ce qui m'a toujours manqué, c'est la complicité. Ou de partager plutôt les peurs, les angoisses, justement pour un travail. C'est-à-dire, j'ai peur qu'ils ne me laissent pas faire ce film. J'ai peur de ne pas avoir d'argent. J'y suis arrivée, des choses très quotidiennes. Je crois que dans l'absence des gens morts qu'on a aimés, ce n'est pas tellement qu'on veut leur prouver quoi que ce soit. Mais ce qu'on voulait avec eux partager, le quotidien, c'est... Ce qu'on attend, ce qui arrive, ce qui vous a... Oui, c'est tout ça.
S'il y avait un film que vous aimeriez montrer à votre père, ce serait lequel, lui qui ne vous a pas vu sur un écran de cinéma?
Un défi, Chile. Je sais pas. Et moi, curieusement, j'ai tellement aimé ceux qui sont morts, que les vivants et les morts, vous savez, dans cette chose, bon, j'ai été élevée religieusement, mais dans le credo, il y avait, je crois, aux vivants et aux morts. Moi, ça m'a tellement frappée quand j'étais jeune, que les morts sont aussi présents que les vivants. C'est comme une sorte de conversation ininterrompue. Comme si je savais qu'ils ne pouvaient pas m'abandonner. Et puis, vous savez, moi, je pense qu'on parle aux morts comme on parle, si on parle à Dieu, avec une forme de, tu vois, pas de côté. Vous savez pourquoi on parle tout bas dans les cimetières? On ne devrait pas. Justement, en Russie, les tombes, il y a deux petits bancs, et les gens apportent le caviar, le pain, le sel, et voilà, tout le monde parle, et l'attend Irma.
La vodka.
Oui, la vodka, tu vois. Il y a quelque chose, on fait participer les vivants, mais pas dans le côté petit géniflexion. Et que on interpelle, on les convoque, on dit « Ah non, tu vas pas, cette fois-ci tu vas m'écouter. » Après, je ne sais pas ce que font les morts ensemble. Est-ce qu'ils parlent des vivants? Je ne sais pas.
J'ai envie, pour terminer cette première partie, Fanny Ardant, de vous entendre en italien sur un texte de Pier Paolo Pasolini. Vous voulez bien?
Oui.
Peut-être on peut le dire à deux. Je traduis en français chaque strophe en italien.
Adulto, mai, mai come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno. Io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero.
Adulte, jamais, jamais comme l'existence qui ne mûrit pas, reste toujours verte, de jour splendide en jour splendide. Je ne peux que rester fidèle à la merveilleuse monotonie du mystère.
Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato. Ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero.
Voilà pourquoi, dans le bonheur, je ne me suis jamais abandonné. Voilà pourquoi, dans l'angoisse de mes fautes, je n'ai jamais atteint un remords véritable.
Pari. Sempre pari con l'inespresso all'origine di quello che io sono.
Égal, toujours égal, à l'inexprimé, à l'origine de ce que je suis.
Pier Paolo Pasolini, journal intime 1950, traduit l'italien par René de Secati.
Je vous remercie, Fanny Ardant, et je vous dis à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Fanny Ardant avec Philippe Bresson. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Martin Guénard, réalisation Rafik Zénine, coordination Bélindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.